on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Cheers 94.3.
Écoute!
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de CHIZ 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de CHIZ 94.3. Mon nom est Marc-Antoine Belzile et je serai votre animateur pour la soirée. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Frédéric Daigle. Bonsoir, M. Daigle.
Bonsoir, Marc-Antoine.
Frédéric Daigle, vous êtes un journaliste sportif à la presse canadienne depuis maintenant 15 ans. Vous avez couvert, entre autres, les Jeux olympiques de Vancouver et Sochi. Vous avez été également adjoint au directeur des relations médias pour le Canadien de Montréal au début des années 2000. Vous êtes également un auteur. Vous avez écrit les deux ouvrages « Raconte-moi Marc-André Fleury » et « Raconte-moi chez Weber ». Mais ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour la sortie de votre nouveau livre « Chips, Peanuts, Cracker Jack, 24 histoires savoureuses des expos aux éditions de l'Homme ». Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment apprécié.
Le plaisir est pour moi.
Donc, pour commencer, comment vous est venue l'idée de rassembler des histoires cachées, des histoires inédites sur l'histoire des expos à travers 24 témoignages?
Bien, c'est un livre quand même que j'avais en tête depuis plusieurs années. Ça fait 15 ans que je suis avec ma conjointe, puis elle me rappelait quand on a ouvert la boîte de livres, là, les premiers exemplaires qu'on a reçus, que c'est une des premières choses dont je lui ai parlé dans nos premières rencontres, ce projet de livre-là. Depuis que les expos sont partis, quand même, ça fait 17 ans, il y a eu plusieurs livres. Il y a la Bible là, de Jacques Doucet et Marc Robitaille. Il était une fois les expos qui passent de saison par saison de 69 à 2004 avec beaucoup de statistiques, presque des rapports de matchs parfois. Alain Huzereau a écrit l'époque glorieuse des expos sur la période 77 à 82-83. Danny Gallagher, un journaliste anglophone qui suivait les expos à l'époque, a écrit un livre qui s'intitule Blue Monday qui parle juste de la saison 81, puis de sa tragique fin avec Steve Rogers. Tragique, il n'est pas mort quand même, là, mais je veux dire, pour les partisans des expos, c'était tragique. Et puis je me disais, comment on pourrait raconter l'histoire de cette franchise-là sans revenir sur les statistiques, puis sur quelque chose qu'on a déjà lu plusieurs fois. Et alors, c'est là que l'idée m'est venue d'approcher différentes personnes. Il y en a 23 dans le livre. Il y a moi qui livre une histoire aussi. Et leur demander leur meilleur souvenir, leur meilleure histoire des expos, mais qui n'a jamais été racontée avant. Et puis là, les gens, c'était ma seule prémisse. Les gens sont partis de là, puis là, sont allés dans plusieurs directions. Et c'est un livre de baseball. Il n'y a pas une stat dans le livre. Et ça j'étais plutôt content quand j'ai réalisé ça en remettant mon premier jet à l'éditeur. Il n'y a pas une stat dans un livre de baseball. Alors, c'est vraiment ça que je voulais faire, raconter les expos différemment. Puis, ça, je pense avoir réussi au moins sur ce chapitre-là.
Oui, tout à fait. On sent que on le lit plutôt comme un roman, comme un récit, que plutôt comme un rapport de statistiques ou comme un livre d'histoire très factuel. On sent l'esprit des expos. On a le goût de retourner quasiment au stade olympique en lisant le livre ou pas non plus, dépendant des expériences qu'on peut y lire, des témoignages. Vous avez d'ailleurs mentionné que ça faisait longtemps que vous traîniez cette idée-là de produire Chips, Peanuts et Cracker Jack. Mais vous avez dit aussi dans vos remerciements que vous êtes fait les dents avec deux autres livres auparavant. Quelles étaient les difficultés de cet ouvrage-là, de l'ouvrage des expos?
Bien, quand je dis de me faire les dents, entre avoir une idée et savoir comment l'amener à terme, c'est deux. je connaissais pas du tout le monde de l'édition. Je savais pas à qui m'adresser. Je savais pas à qui vendre le livre, comment vendre le projet de livre. Et puis, alors, c'était un projet un peu que j'avais toujours en tête, mais j'étais pas capable d'arriver à mes fins. Et puis, au fil de mes couvertures, j'ai côtoyé beaucoup Régent Tremblay. Régent couvre la boxe, couvre les Jeux olympiques. Alors, on s'est croisés plusieurs fois en couverture, puis on a développé, on s'était croisés quand je travaillais chez le Canadien aussi. On a développé ce qui est devenu une amitié avec le temps. Puis Régent, c'est lui qui est l'idéateur de la collection de livres jeunesse Raconte-moi. Puis moi, je savais qu'il y avait ce projet-là, puis je voyais les livres. J'en avais pour mes filles qui sont âgées de 11 et 8 ans, donc c'est, elles sont en plein dans le public cible. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit à Régent, je dis, Régent, raconte-moi, là, si vous cherchez des auteurs, je pense que c'est à ma portée. J'aurais le goût d'essayer ça. Puis c'est resté comme ça. Quelques mois plus tard, il m'a offert Raconte-moi chez Weber. Et puis ensuite, il est venu Raconte-moi Marc-André Fleury. Alors ça m'a permis d'abord de développer mon écriture, parce que entre écrire, j'écris là depuis que je me rappelle, là. Je veux dire, c'est quand même mon travail dans la vie, mais entre écrire un compte-rendu de conférence de presse, de match ou un feature sur un athlète de 800 mots, 1000 mots, puis écrire un livre de 15, 16, 18 000 mots ou 75 000 comme dans le cas de Chips, Peanuts, Cracker Jack, c'est pas la même structure, c'est pas la même écriture. Alors quand je me suis cassé les dents un peu sur... je me suis fait les dents sur les deux Raconte-moi, mais c'est que j'ai appris à écrire, j'ai appris à connaître le monde de l'édition, puis là, mais j'avais un pied dans la porte. Ça m'a vraiment permis de savoir à qui m'adresser, comment présenter le projet, parce que là, tu connais les délais, tu connais aussi les coûts associés. Alors, ça te permet ça m'a permis à moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, ça m'a permis à moi de ficeler un peu ce projet qui était éparpillé dans ma tête, puis de bien le présenter. Puis, comme de fait, ça a été très rapide à le vendre aux Éditions de l'Homme, le livre.
Et justement, question de se mettre dans l'ambiance du livre Chips, Peanuts, Cracker Jack. Allons-y avec un premier extrait musical. He's got the whole... Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire et vous venez d'entendre la pièce « He's got the whole world in his hands » de Laurie London, pièce qui était jouée par Fernand Lapierre, l'organiste des expos, lorsque le lanceur Claude Raymond se présentait au Monticule, sa façon particulière de l'encourager et de lui faire comprendre aussi que la partie était entre ses mains. C'est ce qu'on va lire dans « Chips, Peanuts, Cracker Jack », des histoires savoureuses comme ça, des anecdotes, et des faits historiques, dont des faits sur la création des expos et l'implication du gouvernement municipal de Montréal. Quelle était l'implication, justement, de ce palier de gouvernement et particulièrement du maire Jean Drapeau dans la création des expos?
Bien, c'est presque surréel quand on retourne dans ces années-là. On parle là, des années 65, 66, 67, là, avant l'obtention de la franchise par Montréal. C'était pas un groupe de gens d'affaires qui a sollicité les gouvernements pour obtenir de l'aide, pour obtenir une franchise. C'est carrément la ville de Montréal qui, à l'époque, le maire Drapeau. On se rappelle, on est avant les Jeux olympiques. Là, Montréal est sur le point d'obtenir les Jeux olympiques. Je pense qu'ils les ont obtenus en 69. Ils travaillent, là, le maire Drapeau a pour objectif de mettre Montréal sur la map monde, dans le sens où il veut que ça devienne une grande métropole du monde. Il y a Expo 67 qui s'en vient. Et puis, c'est littéralement la ville de Montréal qui est allée cogner à la porte du baseball majeur pour leur dire « Nous, on en veut une franchise, on est prêt. » Ils ont fait la même chose avec la NFL aussi dans les mêmes années. Et dans les deux cas, c'était Jerry Snyder, qui était un conseiller municipal, mais qui était aussi là un bras droit du maire Drapeau, qui était vraiment le porte-parole de la ville, le représentant de la ville auprès de ces deux ligues-là. Et c'est littéralement Montréal qui faisait les démarches pour obtenir une franchise du baseball majeur.
On apprend d'ailleurs une anecdote assez savoureuse sur la création du stade qui a été assez laborieuse, je crois, pour au Parc Jarry, qu'il y a eu comme 24 heures, que le plan n'était pas tout à fait clair, entre autres. Là.
Ah, c'était très brouillon. Une des conditions pour Charles Bronfman de se joindre au projet, et à l'époque, il devait être seulement un dixième là, de l'actionnariat des Expos, le maire Jean Drapeau voulait qu'il y ait 10 magnats des affaires montréalais qui investissent 1 million chacun pour se porter acquéreur de la franchise. Et il y avait des promesses rattachées à ça, dont un stade avec toit rétractable qui devait être bâti et tout ça. Mais là, Montréal obtient la franchise, puis le groupe de propriétaires se désagrège peu à peu. Finalement, Charles Bronfman se ramasse avec 75 % de la mise. Et c'est un... il est un peu découragé de ça. D'ailleurs, c'est le titre de son passage. Il le répétait souvent au cours d'entrevue. C'était un vrai foutoir. Il y a personne qui semblait savoir exactement où on s'en allait. Puis là, la saison était à quelques mois d'arrivée. Et j'avais toujours pas de stade. J'avais absolument rien. Et puis, il est allé voir le maire Drapeau avec sa lettre de démission pour lui dire, regardez, moi, je débarque de ce projet-là. Et puis, le maire Drapeau lui a dit, me donnez-vous 24 heures. Il a dit, écoutez, je pense pas que ma décision va changer en 24 heures, mais mon père m'a toujours dit qu'on peut prendre 24 heures avant de prendre une décision. Je veux bien vous donner 24 heures, puis on se revoit ici demain. Entre-temps, le maire Drapeau, Jerry Snyder, puis tout ça, il avait invité. Là, je vais massacrer son nom, mais il me semble que c'est Ken Giles. En tout cas, le président de la Ligue nationale de baseball à l'époque, là, ma mémoire fait défaut présentement. Là. Et puis, il l'avait invité en ville. Puis le soir, ils sont rendus au Parc Jarry où il y avait un match de junior élite. Là, la Ligue ne s'appelait pas junior élite dans le temps, mais de baseball junior. Et puis, là, ils ont présenté le président à la foule. Puis c'était quand même des bonnes foules, là, le baseball junior à l'époque à Montréal. Là. Il devait y avoir plusieurs centaines, sinon quelques milliers de spectateurs dans le parc. Et puis là, ils ont vendu un projet là, de rajouter des estrades puis tout ça. Puis le lendemain matin, quand Bronfman s'est présenté au bureau du maire Drapeau, il y avait une maquette, il y avait un plan de stade au Parc Jarry là, pour accueillir du baseball majeur. Et puis, mais c'était toujours temporaire, c'était toujours en attendant le stade couvert, promis par l'organisation municipale. Mais finalement, Charles Bronfman dit, quand j'ai vu l'annonce des Jeux olympiques et la présentation du stade olympique, j'ai dit, bon, on n'aura jamais notre stade. C'est pas vrai qu'ils vont bâtir deux stades en même temps. Et il s'était pas trompé là-dessus. Mais la saison là, de baseball, là, c'était probablement en septembre. J'ai la date dans le livre, mais à quelques mois du premier match des Expos, il n'y avait toujours pas de stade. Et là, l'hiver s'en venait à Montréal et Charles Bronfman ne voyait pas comment ils allaient bâtir un stade à temps pour la saison 69. Et d'ailleurs, Charles Bronfman, il me semble que c'est dans le livre, quelques heures avant le premier match à Montréal, il a déblayé les estrades parce qu'il y avait eu une tempête la veille. Alors, il pelletait avec les employés du stade pour dégager les gradins à temps pour le match, le premier match de l'histoire à l'extérieur des États-Unis.
Oui, puis il installait aussi les bancs. Il y avait encore des bancs qui n'étaient pas encore installés. Ouais. En tout cas, on sent que c'est dans l'improvisation, pas dans l'improvisation, mais c'est quand même dernière minute. On est surpris d'apprendre ça quand même. On n'a pas l'impression qu'une équipe professionnelle, on sent que c'est une grosse structure, que c'est une organisation. C'est quand même curieux de lire ça. Vous avez parlé d'ailleurs du baseball junior. En fait, on dirait que dans la culture populaire, je pense entre autres dans les films, on associe... la naissance de la passion baseball au Québec avec l'arrivée des Expos, mais justement, les témoignages dans le livre nous permettent de corriger cette pensée-là. Je pense entre autres au témoignage de Dave Van Horn qui rappelle qu'au défilé d'accueil des Expos, 250 000 fans sont là pour les accueillir. Je pense aussi à Christian Tétrault qui rappelle que la passion baseball était dans sa famille depuis le 19e siècle. Comment expliquez-vous cet engouement, cette curiosité pour le baseball avant même l'arrivée d'une équipe professionnelle?
Il y a eu quand même, au Québec, il y a une riche tradition, une riche histoire de baseball. Maurice Richard, à ses années de gloire avec le Canadien, jouait pour une équipe provinciale l'été au baseball. C'était un excellent joueur de baseball. Je pense qu'il jouait au troisième but. Les Royaux de Montréal, où Jackie Robinson a fait ses premiers pas avant d'accéder au baseball majeur, ça, on parle des années 40, mais c'était la troisième mouture des Royaux. Il y en a eu, je pense, à partir de 1890, dans une ligue qui comptait des équipes là, dans le nord-est des États-Unis. C'était la troisième édition des Royaux de Montréal. Le baseball remonte à très loin. D'ailleurs... Marc Defoy et Roger Brulotte dans leur ouvrage Baseball PQ, je pense qu'ils situent le début du baseball professionnel aux années 1870 à Montréal et au Québec. Okay. Alors vraiment, puis et c'était un sport qui était implanté dans les collèges classiques, les collèges privés de l'époque. Chaque école avait son équipe de baseball. Moi, je viens de Repentigny, à banlieue de Montréal. J'ai étudié au Collège de l'Assomption. Dans le livre de Marc Defoy, il y a une photo de l'équipe du Collège de l'Assomption de 1908. Alors, c'est un sport qui était vraiment bien implanté. Il y avait une grosse structure et il y a eu beaucoup d'équipes de clubs-écoles du baseball majeur implantées ici, dont la plus célèbre, les Royaux, mais il y en a eu d'autres après ça aussi. Et je pense que c'était... on recule là, au milieu des années 60, ça fait déjà 60 ans de ça. Hein? Des fois, on a de la misère à se rappeler comment les gens pouvaient penser, pouvaient agir à ce moment-là, mais je pense que c'était naturel à ce moment-là, quelques années après la perte des Royaux, de vouloir ravoir du baseball professionnel de haut calibre. Et comme le baseball majeur semblait ouvert à élargir ses cadres, je pense que Montréal, pour les gens de l'époque, ça allait de soi qu'on présente une candidature.
Et malgré cet engouement pour le baseball, comme vous dites, depuis les débuts des années 1900, le Québec n'est pas nécessairement réputé pour produire énormément de joueurs professionnels. Bon, évidemment, aujourd'hui, on peut penser à Russell Martin, Éric Gagné, entre autres. On pense aussi à Claude Raymond, que j'ai mentionné tout à l'heure. Mis à part l'hiver coriace au Québec, est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui nuisaient au développement des joueurs locaux?
Bien, je pense que la météo était très importante à l'époque. Puis je pense que les hivers étaient plus longs, plus rigoureux aussi quand on recule à cette époque-là. Mais il n'y avait pas de structure. Hein? Il n'y avait pas d'Académie Baseball Canada qui existait ici. Il n'y avait pas de National Baseball Institute comme on a à Vancouver présentement, où ils recrutaient les meilleurs athlètes et ils pouvaient les faire jouer 12 mois par année. Ça, on était à des années-lumière de ça, littéralement. Donc, c'était vraiment là de se faire connaître, mais il y avait quand même, malgré tout, là, il y avait quelques noms, quelques joueurs qui sortaient du lot. Des gars comme Ray Davio, des gars comme M. Manta. Il y a un stade qui porte son nom dans votre coin à Québec, là, j'oublie son prénom, mais il y a quand même, puis là, il y a eu Claude Raymond. Puis, mais il y en a eu avant aussi. Là. D'ailleurs, je vous avais envoyé le nom, là, son nom m'échappe. Ma mémoire ce matin, je m'excuse, là, c'est vraiment pas sharp. Là. Il y a quelqu'un qui a joué dans le baseball majeur quelques matchs à la fin du 19e siècle. Il y avait des illuminés comme ça qui choisissaient le baseball et qui prenaient les moyens de percer. C'est probablement des joueurs qui faisaient partie justement de ces premières équipes provinciales et que là, ils se faisaient voir par des propriétaires d'équipes américaines parce que les ligues n'étaient pas nécessairement structurées comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'équipes de voyage, des traveling teams, c'est-à-dire des équipes un peu d'étoiles, souvent des gens qui provenaient de la même usine ou du même village, puis qui se promenaient de ville en ville là, pendant quelques mois, puis qui allaient affronter les équipes d'autres villes, d'autres industries. Alors probablement que lors d'un match comme ça entre l'équipe du Québec ou l'équipe de Montréal, puis une équipe du Rhode Island, là, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un se démarquait, bien, on pouvait l'attirer en lui faisant signer un contrat. Puis là, en jouant aux États-Unis, bien, ces gens-là se faisaient voir davantage, puis là, il y avait plus de chances justement d'être repérés par des gens du baseball majeur.
Et d'ailleurs, on parle des joueurs marquants, des expos. Si on parle en fait des joueurs marquants des expos, en 1971, les expos ont repêché Steve Rogers en première ronde, qui est devenu plus tard le lanceur le plus victorieux de l'organisation, de l'histoire de l'organisation en fait. Mis à part ce record, comment Steve Rogers a marqué l'histoire de l'organisation des expos?
Bien, c'est certain que le premier réflexe, la première chose qui nous vient en tête quand on pense à Steve Rogers, c'est Blue Monday. Puis malheureusement, le circuit a accordé à Rick Monday des Dodgers qui coulaient les expos, qui les ont privés de participer à la Série mondiale de 81. Les gens oublient souvent qu'une semaine avant ça, Steve Rogers a battu deux fois Steve Carlton des Phillies de Philadelphie, qui était possiblement le meilleur lanceur de l'époque entre 80 et 83, là. Et Rogers l'a battu deux fois. Même il y a un match que les Expos ont gagné 3-0. Steve Rogers a deux points produits dans ce match-là, si ma mémoire est bonne. Alors, c'était vraiment un des grands lanceurs de l'époque. Steve Rogers, c'est un gars qui lançait là, 250, 280, 300 manches par année régulièrement, beaucoup de matchs complets. Il détient encore les records pour les Jeux blancs et les matchs complets de l'organisation, le même qui est rendu à Washington maintenant parce qu'ils ont gardé des records des expos. Et c'est probablement des records qui seront les manches lancées, le nombre de matchs complets, le nombre de jeux blancs. Je vois pas dans le baseball actuel qui va déloger Steve Rogers de ces plateaux-là. Ça a été vraiment sur une longue durée. Je pense qu'il y a 13 saisons avec les expos, Steve Rogers, 13 saisons dans le baseball majeur. Ça a été le meilleur sur toute cette durée-là. C'est certain que Pedro Martinez a été dominant, mais les meilleures années de Pedro, elles ont commencé avec ses deux dernières saisons à Montréal, peut-être, mais vraiment, le Pedro dont on se rappelle, c'est celui avec les Red Sox de Boston. C'est d'ailleurs une casquette des Red Sox que Pedro porte au temps de la renommée à Cooperstown. Mais quand même, il a marqué l'histoire des expos, là, c'est pas ça que je dis, mais Steve Rogers, c'est certain qu'il faut remonter plus loin dans l'histoire des expos, mais ça a été vraiment le gros lanceur de l'équipe. Et pendant quelques saisons, là, il était dans le top 5, si c'est pas dans le top 3 là, du baseball majeur avec Steve Carlton, Tom Seaver, Nolan Ryan, là, les gros noms de l'époque. C'était vraiment, là, on parle de l'expression consacrée, là, c'était un peu un workhorse, un cheval de trait. Là. Tu donnais la balle à Steve Rogers, puis tu savais que tu n'aurais probablement pas besoin de ta relève avant la 8e ou la 9e manche. Là. Alors, c'était vraiment un gars qui donnait, qui se défonçait pour l'équipe, puis même la science étant ce qu'elle est, il ne savait pas nécessairement toujours ce qu'il faisait. Les lanceurs à cette époque-là, Steve Rogers s'est blessé au coude, s'est blessé à l'épaule. Et avec le recul, il dit sûrement que c'est des blessures que j'aurais pu éviter aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la mentalité, c'était les partants lancent le plus longtemps qu'ils peuvent, peu importe le nombre de points, de coups sûrs, on essaie d'aller le plus loin dans le match, puis Steve était la représentation parfaite de ça.
Puis d'ailleurs, Steve Rogers fait un témoignage, laisse un témoignage dans votre livre. Il parle évidemment du processus qui a mené les expos à sa seule participation aux séries éliminatoires. En quoi la qualification à ces séries éliminatoires-là était si ardue, justement si laborieuse pour l'équipe des expos?
Ça a été une saison 81 qui a été marquée par la grève. Elle a été jouée en deux blocs. Là. Il y a eu un bloc de 5 à 6 semaines en plein milieu de l'été où les joueurs étaient en grève, donc. Et Steve Rogers était représentant de l'Association des joueurs pour les expos. Donc, pendant que ses coéquipiers se reposaient, parce que c'était littéralement ça, il n'y avait pas d'entraînement de prévu, tout ça. Alors, lui, il me disait que pendant une période de 50 jours, il s'est retrouvé 46 jours d'affilée, je pense, à la table de négociation. Et il me disait que c'était pas sportif, mais c'était une fatigue constante parce que là, c'était... des argumentations, puis de s'obstiner envers les propriétaires, puis de négocier la convention collective, puis de faire progresser la situation des joueurs, vraiment, là, leurs avantages, puis tout ça qui n'était pas qui, sans aucune commune mesure avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il disait alors, moi, je suis arrivé quand on a signé une entente, quand la convention collective a été ratifiée, puis qu'on a repris l'entraînement. Moi, j'étais déjà brûlé. Et puis, les expos étaient seulement que locataires à West Palm Beach, à leur site d'entraînement à l'époque. Puis là, disons, on s'est retrouvés en plein mois d'août où le Stade olympique ici à Montréal, ils avaient prévu des événements parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que le baseball allait reprendre. Alors, on ne pouvait pas venir faire un camp d'entraînement à Montréal. Alors que tout le monde était dans son stade partout aux États-Unis et à Toronto aussi. Toronto avait rejoint les rangs de la Ligue américaine à cette époque-là. Alors, dis-nous, on s'est ramassé à West Palm Beach où on tenait notre camp d'entraînement, mais il y a une raison pourquoi le camp d'entraînement a lieu en Floride au mois de mars, c'est que c'est pas humide et qu'il fait pas 100 degrés à tous les jours. Alors, dis-nous, on s'est retrouvé à faire un camp d'entraînement pour se remettre en forme de 2 à 3 semaines, je me souviens plus exactement de la durée, par une chaleur et une humidité absolument accablantes. On est sorti de là. Moi, j'étais exténué des négociations. Puis l'équipe au complet est sortie de là exténuée de son camp d'entraînement qui a été tenu dans des conditions exécrables. On était 2 par chambre dans un motel. Tu sais, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour ce camp d'entraînement-là comme organisation. Puis là, par la suite, ben, il y a eu des problèmes. Les expos jouaient coup-ci, coup-ça. Dick Williams, qui était l'entraîneur à l'époque, a été congédié par John McHale quelques semaines à peine avant la fin de la saison. Je pense au début, le 7 septembre, quelque chose comme ça. En pleine course au championnat, Et parce que là, le calendrier étant divisé en deux, il y avait le champion de la première moitié, le champion de la deuxième moitié qui accédait aux séries. Et là, on allait tout croche, vraiment, on s'en allait nulle part. Puis ils ont placé un gars en Jim Fanning qui connaissait l'organisation, mais qui n'avait peut-être pas la poigne pour être un gérant dans une course serrée comme ça. Il dit, jusqu'à temps qu'on tienne une réunion d'équipe et puis qu'un joueur comme Bill Lee prenne la parole et dise, là, vous vouliez la tête de Dick Williams. Dick Williams est parti, là. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour vous mettre à gagner? Parce que là, on est en train de tout rater ce qu'on avait placé. Il dit, là, à partir de ce moment-là, on a commencé à enchaîner les meilleures performances, mais ça a été... une fois rendu, on était très heureux. D'ailleurs, quand l'équipe s'est qualifiée, ça... Il dit, je me demande si le party pour se qualifier aux séries n'a pas été plus gros que le party quand on a éliminé les Phillies. Mais ça a été ardu, ça a été très, très laborieux. Je me souviens que quand on s'est rencontrés pour le livre, il dit, on était littéralement, là, on marchait dans la boîte jusqu'au genou, on n'avançait pas, puis jusqu'à temps, à un moment donné, qu'on se libère de ça, puis qu'on se remette à retrouver nos repères.
Oui, évidemment, on ne peut pas parler de la série 81 sans parler du Blue Monday. Comment s'est passée cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi lui a-t-on donné ce nom?
Ben, pardon, je m'excuse. Blue Monday, alors la série est égale 2-2 entre les Dodgers et les Expos, série de championnat de la Ligue nationale. Le gagnant s'en va à la série mondiale, d'ailleurs... l'avion, le Nolisée des Expos, attend à Dorval en direction de New York où les Yankees, eux autres, attendent le champion de la Ligue nationale. Les journalistes, l'équipe, tout le monde part pour ce match-là avec une valise parce qu'on s'en va directement à New York après le match. Le match doit avoir lieu un dimanche. Il fait une température exécrable à Montréal. On est au mois d'octobre. Il pleut, je pense. Je me demande si on n'est pas proche du point de congélation. Le match est remis au lendemain, un lundi donc. Et les Dodgers, pour la petite histoire, les Dodgers, évidemment, sont bleus et blancs, leurs uniformes, mais les joueurs qui accèdent à la formation des majeurs, on leur dit que finalement, ils peuvent porter le Dodger Blue. Ils ont le droit de porter le bleu des Dodgers. Alors, le match est serré. Je pense que c'est 1-1. Steve Rogers, qui n'est pas le partant cette journée-là. Les Expos comptent sur le meilleur releveur du baseball en Jeff Reardon à l'époque. On l'appelle le Terminator, c'est le Mariano Rivera de son époque. Quand il rentre dans le match, c'est réglé, on peut fermer les livres, la victoire est acquise. Ce soir-là, les Expos se retrouvent en difficulté. Il y a un coureur qui accède sur les sentiers. Puis là, Rick Monday, qui est un frappeur de puissance des Dodgers, s'amène au bâton. Jim Fanning fait appel à la relève, mais au lieu d'envoyer Reardon dans la mêlée, c'est Steve Rogers qui se présente comme un releveur. Un rôle qu'il n'a pas fait depuis sa première saison dans le baseball majeur. Et puis, Steve se débrouille bien. Je pense que le compte est deux balles, deux prises ou une balle, deux prises. Mais il envoie une glissante qui reste trop élevée, sans mordant. Et puis, Monday frappe un circuit de deux points qui coule les Expos. Les Expos avaient encore un ou deux tours au bâton, mais ils n'ont pas été capables de combler l'écart. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ce lundi-là Blue Monday pour les Dodgers, pour Rick Monday, pour le match le lundi.
Oui, un événement particulièrement douloureux pour les fans des Expos. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour la première partie de notre émission. Mais avant la pause publicitaire, allons-y avec un extrait musical, Take Me Out to the Ball Game, parce que c'est pas à cause du Blue Monday qu'on boude notre plaisir. À tout de suite. And to him I heard her shout, hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
collabos, chroniques, entrevues, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie, j'arrive par Gabrielle Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à Chérie 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Dans le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire avec notre invité Frédéric Daigle qui vient nous parler de son nouveau livre « Chips, Peanuts, Cracker Jack, 24 histoires savoureuses des expos » aux éditions de l'Homme. Donc, juste avant la pause, on parlait de la création des expos, on parlait du Blue Monday de 81. On était rendu, en fait, à la décennie des années 80. Et justement, Steven Bronfman va parler à cette décennie-là comme un changement de paradigme du baseball, comme quoi que les entreprises passent d'entreprises familiales à des méga entreprises. Comment ce changement de paradigme va influencer, va changer le marché montréalais?
Pardon, c'est Steven raconte l'histoire. Lui il a vu ça passer un peu comme un jeune adulte avec son père qui était propriétaire de l'équipe. Puis il me dit à un moment donné, on était parti d'étoile et là, il dit Gary Carter frappe deux circuits dans le match. Puis là, je suis avec des amis à la maison. Puis il dit, nous autres, on se donne des high five. Puis on est content. Puis je vois mon père un peu qui a l'air de bouder, puis tu sais, il a pas l'air content, puis pourtant c'est son joueur vedette qui fait gagner la Ligue nationale au match des étoiles. Puis là, je dis papa, à tabarouette, c'est Gary Carter qui frappe des circuits, mais qu'est-ce, t'es pas content? Et puis là, son père lui a dit, ça vient de me coûter une couple de millions de plus, là, ce circuit-là. Et puis il dit que plus tard, il a réalisé que c'était à ce moment-là probablement qu'il a compris que l'industrie est en train de changer. C'était vraiment avec les nouveaux paiements qui étaient versés pour les droits de retransmission des matchs qui allaient en croissant. Puis c'était des grosses compagnies qui achetaient des équipes à ce moment-là. Steven dit, j'ai senti que ça changeait, là, que c'était plus juste un mom and pop's business, que c'était rendu des grosses entreprises, une grosse industrie, puis qu'il fallait avoir les reins très solides. Puis il dit... Mon père avait une philosophie qu'il était prêt à perdre de l'argent un peu à chaque année avec ça parce qu'il se disait que sur le long terme, le profit va se faire sur la vente de l'équipe. Et il dit là, j'ai senti que ça c'était peut-être que là, à ce moment-là, il avait commencé sa réflexion. Il dit, Steven ne peut pas en être certain, là. Mais alors, c'est vraiment... Et puis je pense qu'il voit juste aussi en disant ça parce que là... L'autonomie commence à gagner du terrain. Quelques années plus tard, là, en 87, il y a Tim Raines qui rate un mois de la saison parce que les équipes du baseball majeur ne veulent pas lui offrir de contrat comme joueur autonome. D'ailleurs, une grosse enquête a mené à une condamnation pour collusion des équipes après ça, puis ils ont eu à payer une amende très salée à l'époque, là, plusieurs dizaines, si ce n'est pas centaines de millions. Et... ça changeait. Le visage du sport changeait. Ça prenait de l'expansion au propre et au figuré. Et c'était devenu une autre business. Alors, c'est vraiment là... Et c'est particulier de voir que les gens vraiment de l'intérieur l'ont vu, ce changement-là qui s'est pas opéré en une nuit. Là. Tu sais, c'est comme un bateau qui tente de changer de direction un peu. Là, ça s'est fait sur un très long mouvement. Mais déjà... Eux autres, avec le sens des affaires inné, je pense qu'il est dans cette famille-là, ils l'ont vu dès le départ.
Oui, puis d'ailleurs, vous avez abordé un petit peu par la bande les contrats de diffusion télévisuelle. Plusieurs témoignages vont même dire que les mauvais contrats de télévision ont nui à l'avenir des expos. Pourquoi, en fait, ça nuit aux expos?
Bien, c'était une époque aussi, là, vous faites référence à l'histoire de Roger Deslandry qui me raconte comment il a fait passer littéralement les expos dans les ligues majeures des droits de télédiffusion puis de radiodiffusion. Les expos avaient un contrat avec Radio-Canada qui était ridicule pour l'époque, là, quelques millions de dollars pour plusieurs années. Et puis, il venait à échéance ce contrat-là. Puis, Roger Deslandry regardait un peu ce qui se faisait ailleurs dans le baseball majeur puis il disait, bon, c'est certain qu'on doit aller chercher plus parce qu'on ne pourra pas survivre avec ces grenailles-là, littéralement, en comparaison avec les autres marchés. Alors lui, il avait établi son prix et c'était, je pense, quelque chose comme 30 millions pour 5 ans qu'il visait. Mais ce qui est arrivé, c'est que il est allé chercher des revenus des deux côtés et il est allé... il a lancé vraiment les grandes brasseries qui étaient à l'époque la Bat Molson O'Keefe dans une surenchère pour les droits de retransmission. En fait, il faisait commanditer les droits par les brasseries et puis après ça, pour les brasseries, allaient les revendre à au réseau de télé puis les expos empochaient des deux côtés. Et puis, alors la surenchère s'est faite puis c'est la Bat à un moment donné qui a remporté la mise. Mais ce que M. Landry explique, c'est que vraiment, sans ce contrat-là, bien, les expos auraient été condamnés beaucoup plus tôt que peut-être en 2004, la fin des années 2000, là, parce que l'agonie s'est passée sur plusieurs années. Mais ça montre aussi là, à quel point, à un moment donné, le marché de Montréal s'est disloqué un peu des autres gros marchés. Parce qu'au début des années 80, le Montréal attirait plus de gens que les Yankees, plus de gens que les Dodgers dans le stade. Alors, c'était pas les revenus de billetterie qui étaient un problème pour les expos à cette époque-là. C'était vraiment les revenus de radio et de télédiffusion. Et puis, l'écart n'a pas cessé de se creuser par la suite. Il faut dire aussi que les expos fonctionnaient dans un marché qui était complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un marché fermé. Il n'y avait pas de partage de revenus sur les droits de télévision, autant nationaux que les droits nationaux, là, les Game of the Week, ces choses-là, c'était les séries, c'était partagé, mais c'était sans aucune mesure avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais les droits de télé régionaux, ça, bien, chaque marché se débrouillait pour aller chercher le plus possible avec ses réseaux locaux. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où une large portion, je pense que c'est 60 % de la cagnotte, est mise dans un pot central puis qui est divisé dans les 30 équipes après. Alors, les Dodgers, par exemple, qui viennent de signer un contrat de plusieurs milliards de dollars pour 25 ans avec ce qui était Fox, qui est devenu Bally Sports Network là, cette année. Alors, eux autres, ils en gardent une portion, oui, qui est intéressante pour eux, évidemment, mais sur ce montant-là, il y en a une large part, là, 60 % je pense, si le chiffre est exact, ou 68, qui s'en retournent au bureau du baseball majeur à New York. Alors, au montant des Dodgers, tu ajoutes celui des Yankees, qui est immense aussi, parce qu'ils ont en plus le réseau, le Yes Network. Et là, tu as les plus petits marchés qui s'ajoutent. Si Minnesota a un contrat de juste 100 millions pour mettre un chiffre rond, mais qui donne quand même 68 % de ce montant-là, ça fait un pactole gigantesque qui est divisé par 30 équipes présentement. Ce qui fait, pour faire une histoire courte, là, ce qui fait que les équipes du baseball majeur reçoivent un chèque entre 200 et 225 millions de dollars américains avant d'avoir joué un seul match, ce qui n'était pas le cas des expos à l'époque. Et c'est un peu cet écart qui s'est creusé jusqu'à loin, là, ça fait pas des dizaines d'années que ce partage de revenus est en vigueur, mais ça fait que les expos ont toujours traîné de la patte au niveau des revenus par rapport aux autres équipes. Faut pas oublier aussi qu'à l'époque, ben, les expos calculaient leurs revenus en dollars canadiens et payaient les salaires en dollars américains et parfois avec un taux de change à 65 %. Là. Alors c'était très onéreux pour l'équipe à ce moment-là.
Ouais, ça créait en fait une sorte de division entre les équipes riches et les équipes pauvres dans les circuits. Vous avez parlé.
Il existe encore, mais qui est de beaucoup amoindri par ce partage de revenus global.
Ouais, tout à fait. Et vous avez parlé aussi dans votre réponse précédente de la popularité des expos dans les années 80. Puis d'ailleurs, un témoignage particulièrement intéressant d'Alain Usereau qui confirme parce que. Dans notre idéal ou dans notre imaginaire, quand on pense aux équipes professionnelles, quand on pense à Montréal, on pense tout de suite aux Canadiens de Montréal, on pense que le marché montréalais et même la province de Québec est un marché de hockey pratiquement uniquement. En fait, la passion du hockey est dominante. Mais Alain Huzureau, lui, va même jusqu'à dire que les Expos ont pris la place des Canadiens dans le cœur des Montréalais durant les années 80. Quels sont les événements qui ont mené à ce transfert de passion des Montréalais vers le baseball?
Bien, c'est qu'il y a eu un très, très gros engouement, évidemment, à l'arrivée de l'équipe, là. Puis pour les 5-6 premières années, c'était un party que d'aller au Parc Jarry. Puis après ça, bien, l'équipe gagnait pas. L'équipe a eu des très mauvaises saisons, dont la dernière au Parc Jarry, là, où ils ont eu à peine 70 victoires, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas dans ces eaux-là. Et le transfert vers le Stade olympique a été difficile. Puis là, arrive le Stade olympique où, quand même, il y a un certain attrait de voir comment ce stade a été transformé pour les Jeux vers un stade de baseball. Et puis là, l'équipe s'améliore. Là, vraiment, le réseau de filiales a fait son travail. Le repêchage a fait son travail. C'est-à-dire que là, il y a des vedettes développées à l'interne qui sont prêtes à faire le saut. On a Steve Rogers. Puis là, t'as Warren Cromartie. T'as un gars comme Carter qui est dans le pipeline, qui s'en vient, Reigns, Dawson, etc. Alors là, c'est vraiment des gars qui s'en viennent. Faut dire que pendant quelques années, les Expos ont eu une équipe 2A à Québec, les Carnavals de Québec. Alors les gens pouvaient aller voir ces espoirs-là, puis là, les attendaient un peu à Montréal par la suite. Alors là, il y avait un engouement immense, et puis là, l'équipe s'est mise à gagner. Entre 77 et 83, l'équipe s'est retrouvé dans la course souvent jusqu'à la dernière fin de semaine de la saison ou la dernière semaine. Alors, forcément, ça a créé un engouement immense. Et puis, faut se rappeler que le Canadien, à l'époque, le camp d'entraînement, là, il n'était pas couvert par 40 médias. Alors, en septembre, on n'entendait pas parler de hockey pratiquement, là.
Ouais.
Le Canadien avait aussi, à la fin des années 70, c'était sur une séquence de 4 Coupes Stanley, des équipes très fortes. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles recrues qui s'ajoutaient. Le Canadien, on pouvait quasiment parler des 4 trios du Canadien d'une année à l'autre sans vraiment changer de nom, là. Alors, ça créait un engouement qui faisait en sorte que vraiment les gens étaient très attachés aux Expos. Jean Tremblay me disait à cette époque-là, l'été, t'allais à la banque, c'était le match des Expos qui jouait à la radio, là. Parce qu'il y avait plusieurs matchs en après-midi, évidemment, à l'époque. T'allais à l'épicerie, les gens parlaient des Expos. C'est-à-dire, ça parlait pas du Canadien 12 mois par année comme on a présentement. Et comme les Expos avaient une très bonne équipe, une jeune équipe dynamique, eh bien, qui donnait un spectacle incroyable, alors ça créait un engouement qui était égal, même supérieur aux Canadiens certaines années. Et ça se traduit dans les ventes au guichet, parce que les Expos ont attiré 2 millions de spectateurs à quelques occasions en ces années-là. Et comme je disais tantôt, c'était la plus grosse attraction du baseball majeur, les attirait plus que les Yankees, plus que les Dodgers. C'était vraiment, les Expos étaient l'équipe de l'heure avec d'autres formations. Je veux dire, sur le terrain, il y avait d'autres équipes qui connaissaient du succès, mais au niveau de l'engouement, les Expos étaient vraiment très populaires à cette époque.
Incroyable quand même de voir la popularité. Et malheureusement, quand on connaît la fin, comme vous avez dit, l'agonie, la fin tragique, c'est quand même incroyable de réaliser ça. Évidemment aussi, au cours des années 80, j'imagine que les vedettes ont réussi à amener aussi un grand public. Je pense entre autres à Gary Carter. Mais comme toute bonne chose a une fin, Gary Carter a été échangé par les Expos. Oui. Roger Brulotte n'hésite pas à qualifier l'échange comme étant le plus grand de l'histoire. Ben, pas en fait le plus grand, mais le plus marquant de l'histoire des Expos. Pourquoi cette transaction-là était si considérable? Et je sais que pour vous, elle a été particulièrement douloureuse.
Oui, c'est assurément ma première peine d'amour, même si je ne savais pas c'était quoi une peine d'amour à ce moment-là. J'avais, je pense, 9 ou 10 ans quand Carter a été échangé. Et je me rappelle, mon père amenait le Journal de Montréal à tous les jours à la maison en venant du bureau. Puis c'est là, moi, je le lisais là, vers 4h30, 5h le soir, là, quand je me souviens plus à l'heure que mon père arrivait, là, mais... Alors, c'était la première, après l'avoir salué, là, je ramassais le journal, puis j'allais lire ça. Puis en une, c'était l'échange de Gary Carter, évidemment, qui était probablement vieux de 24 heures à ce moment-là, quand moi, je l'ai appris. Mais comme je n'écoutais pas les nouvelles de fin de soirée, ni les nouvelles en journée, moi, c'est quand j'ai vu le journal. Je me souviens encore du choc. De vraiment, là, j'ai vraiment comme arrêté sur place, puis dire, voyons, c'est pas vrai, ça se peut pas, ça. Et puis, non, ça va, j'ai pris ça dur. Charles Bronfman m'explique que, ben, à l'époque, il regrettait un peu le salaire qu'il avait accordé là, à Carter, qui était de 2 millions par année, je pense. C'est un des premiers millionnaires du baseball, Gary Carter. Là. Il y en a eu d'autres avant lui, mais c'était un des très gros contrats du baseball à ce moment-là. Et puis, Charles Bronfman trouvait que Carter était un joueur qui jouait plus pour le nom dans le dos que le logo à l'avant. Là. C'est une expression consacrée. Là. Et puis, il disait, ça faisait plusieurs années qu'on ne gagnait pas avec Gary dans la formation. Je me disais peut-être qu'on pourrait, au pire, ne pas gagner sans Gary dans la formation. Alors, il disait, c'est la seule fois qu'il s'est imposé pour une décision baseball auprès là, des opérations baseball de l'équipe. Et il le regrette encore d'ailleurs aujourd'hui. Il dit que c'était possiblement pas la bonne façon de procéder, mais il dit, à l'époque, c'était mon feeling, c'était comme ça que je voyais ça. Et puis, ce que Roger explique, c'est que tu as le droit d'échanger Gary Carter, mais tu n'as pas le droit de te tromper sur les joueurs que tu reçois en retour. Et c'est à ce niveau-là que les expos sont trompés. Ils ont reçu. Je vais sûrement me tromper moi aussi, mais ils ont reçu un receveur, Mike Fitzgerald, qui a bien fait, mais qui aurait été Gary Carter. Herman Winningham, UB Brooks et, si je ne me trompe pas, c'est Floyd Humans, le lanceur. Floyd Humans a connu des problèmes de drogue épouvantables après ça. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, je m'excuse, je vais me référer au livre parce que j'ai les joueurs de la transaction. Ben, j'ai une très mauvaise mémoire, mais en tout cas, le fait demeure que les expos n'ont pas obtenu les bons joueurs dans l'échange. Tu avais un gars comme Mookie Wilson à New York qui a connu des très bonnes années après. T'avais un gars comme un lanceur que Roger nomme dans le livre, tu sais, qui était plus une valeur plus sûre peut-être que les expos ont obtenu. Et puis tu sais, UB Brooks n'a pas été mauvais là non plus, ça a été un bon arrêt-court, mais il y a rien qui peut faire oublier Gary Carter. Puis on a revécu un peu la même chose quand les expos se sont débarrassés de Pedro Martinez plus tard dans leur histoire. Il n'y avait aucune chance que Pavano puis Tony Armas fils connaissent, fassent oublier Pedro Martinez là. Puis Pedro est allé gagner, il a gagné un Cy Young qui est jamais venu à Montréal d'ailleurs parce qu'il a été échangé avant que son nom soit prononcé. Et puis par la suite, il en a gagné deux autres à Boston. T'as le droit d'échanger une super vedette, t'as pas le droit de te tromper sur le retour que tu obtiens. Et pourtant, les expos étaient réputés pour leur équipe de dépisteurs, puis c'est des gens là, qui étaient justement payés pour ça, pour découvrir les bons talents des autres organisations, et puis là-dessus, ils ont manqué le bateau.
Oui, puis ça fait une très bonne transition pour la prochaine question, justement, parce que les expos dans le livre, du moins, on comprend qu'ils étaient des innovateurs au niveau du développement des joueurs. Pourquoi est-ce que l'équipe se différenciait en fait des autres à ce niveau-là?
Bien, Charles Bronfman a rapidement compris qu'il ne pourrait pas rivaliser avec les grandes organisations comme les Yankees, les Dodgers, les Mets, les Phillies sur le marché des joueurs autonomes. Il n'y avait pas l'argent pour aller faire signer des contrats flamboyants aux joueurs autonomes. Et même quand il plongeait puis qu'il ouvrait les cordons de la bourse pour Reggie Jackson, entre autres, ben Jackson, même si les expos offraient plus d'argent que les Yankees, il a choisi les Yankees. C'est pas trompé, les Yankees sont allés gagner plusieurs séries mondiales avec Reggie Jackson. Et puis c'était vraiment une scène qui était probablement davantage faite pour lui que Montréal à l'époque. Mais alors il se disait, si je peux pas aller chercher les vedettes établies des autres équipes, il faut que je les bâtisse moi-même. Alors il a investi des millions dans le réseau de développement des joueurs, dans le système de dépistage. Il payait les meilleurs. Évidemment, à l'époque, tous les joueurs qui ne provenaient pas des États-Unis étaient des joueurs autonomes, même les Canadiens. Alors, il y avait un gars comme Fred Ferreira qui était dans les Caraïbes, lui, que sa mission, c'était de dénicher les meilleurs joueurs des Caraïbes. Et il l'a fait, c'est lui qui a découvert, entre autres, Vladimir Guerrero à l'époque, là. Ça arrive plus tard quand même dans l'histoire des expos, mais je veux dire, c'est lui, là. Alors, les expos investissaient massivement dans ce genre de personnes-là, dans ce genre de gars qui avaient des contacts partout dans tout ce qui était baseball d'hiver, puis Ligue des Caraïbes, puis tout ça. Alors, les Expos ont massivement investi là-dedans. Et les entraîneurs dans le réseau des filiales étaient, à l'époque, généralement mieux payés chez les Expos que dans les autres organisations. Donc, ça attire des gens avec plus de talent aussi. Alors, vraiment, c'était la vision de Charles Bronfman, c'était si je peux pas aller chercher les vedettes établies, il faut que je les développe moi-même et puis on va investir massivement dans notre réseau de développement.
Oui, tout à fait. Et parlant justement de vedettes, lorsqu'on parle d'histoires savoureuses des expos, des histoires cachées, on s'attend en fait à découvrir des histoires, des scandales de drogue, que ça concerne autant les joueurs que la direction. Est-ce que vous avez eu à vous censurer pour l'écriture du livre?
J'ai pas censuré rien. Je dirais que les gens qui m'ont parlé sont pas nécessairement allés en profondeur avec les histoires de drogue. Puis en même temps, j'étais à l'aise avec ça parce qu'on en a beaucoup entendu parler quand même. Puis je me répète, mais ma prémisse de base, c'était que je demandais aux gens des histoires qu'on n'avait pas entendues. Alors c'est certain que les gens ont peut-être été dans d'autres directions. Mais il y a des histoires quand même qui m'ont surprise, des histoires plus difficiles. Je pense à l'histoire de Mark Griffin qui me raconte comment son association s'est très mal terminée avec les expos. Il a été vraiment rejeté du revers de la main alors qu'il était un des voltigeurs au niveau 2A de l'organisation, puis qu'il était conscient que c'était peut-être pas un espoir de premier plan, mais lui, il espérait quand même voir au niveau 2A à quel point il était capable de se tirer d'affaires, puis à quel point il était capable encore de gravir les échelons. Et puis, à un moment donné, après une transaction, il y a un autre voltigeur qui est arrivé dans le portrait. Puis là, les expos l'ont retranché au niveau A où il n'y avait plus rien à apprendre à cette époque-là. Et puis là, il me raconte cette histoire-là. Puis Mark hésitait parce qu'il se disait, « Bon, j'ai peur de froisser des gens. Puis j'ai peur que des gens se sentent visés un peu. » J'ai dit, « Moi, je pense que c'est le temps de raconter cette histoire-là 27 ans, 28 ans plus tard. » Et puis, je pense pas que les gens, si les gens sont encore froissés ou t'en tiennent rigueur après tout ce temps-là, ben tant pis pour eux autres. À un moment donné, si toi, t'as tourné la page, j'espère que les autres l'ont tourné aussi. Et puis, finalement, ça donne une histoire super intime dans le sens où vraiment, là, Mark s'ouvre sans retenue. Alex Agostino, qui est dépisteur maintenant pour les Phillies de Philadelphie, qui a un poste très élevé dans l'organisation des Phillies, mais qui a commencé sa carrière avec les Expos, me raconte à quel point. Les expos étaient tellement pingres, tellement cheap qu'ils ont échappé des joueurs québécois ou qu'ils les laissaient et qu'ils ne se souciaient pas du fait québécois que pour eux autres, un joueur du Nebraska et un joueur de Victoriaville, ça avait la même valeur à leurs yeux alors que dans les faits, ça ne l'avait pas. On l'a vu quand Denis Boucher a lancé au Stade olympique, quand Claude Raymond a lancé au Parc-Jarry. Il disait c'est inconcevable pour moi que ce soit plus facile présentement de mettre un Québécois sous contrat avec les Phillies que seul l'était avec les expos à l'époque. Il me raconte entre autres l'histoire de Pierre-Luc Laforêt, un receveur que les expos avaient mis sous contrat pour 5 000 $ à l'époque. Là, c'est rien pour une organisation du baseball majeur, là, ça. Et puis, un mois après, Pierre-Luc Laforêt, qui était receveur, gros format, mais qui est encore très jeune, à 18 ou 19 ans, a développé des maux de dos, puis le médecin de l'équipe a dit non, on va annuler son contrat. Puis il n'y a personne dans l'organisation qui a dit non, attends une minute, le but c'est un Québécois, on va prendre une chance encore une couple de mois avec. Alors que Pierre-Luc Laforêt, ensuite, s'est rendu dans les majeures. Il n'a pas fait une saison de 20 ans, une carrière de 20 ans, mais il a joué quelques matchs pour les Padres, pour les Rays. Il dit pourquoi on l'a échappé. Il dit les Expos avaient repêché Russell Martin. Ils n'ont pas voulu lui donner un contrat. Puis après ça, ça a été un des meilleurs receveurs pendant 10-12 ans dans les majeures. Il a fait les séries éliminatoires presque chaque saison à laquelle il a joué. Éric Gagné, c'est un gars qui s'est ramassé joueur autonome à un moment donné avant d'accéder aux majeures. Les Expos, ils n'ont même pas offert de contrat. Alors, on aurait pu avoir Éric Gagné, Russell Martin en même temps chez les Expos. Puis c'est le côté cheap de l'organisation a fait en sorte qu'on les a pas eu. Alors Alex, tu sais, il va pas de main morte là, envers l'organisation de l'époque. Et puis avec raison, je pense. Je pense que c'était un total manque de vision. Et c'est un manque de vision qui s'est répété avec les années. C'est un manque de vision qui a fait en sorte que ces gens d'affaires-là sont fait avoir par Jeffrey Loria plus tard et puis ils ont perdu l'équipe littéralement aux mains de l'Américain.
Oui, exactement. Et c'est ce qui me vient en tête, en fait, quand vous parlez du manque de vision, on pense évidemment à la vente de feu de 95. Puis par la suite, bon, évidemment, les témoignages parlent évidemment de Jeffrey Loria et de sa vision. Et plusieurs n'hésitent pas à le qualifier, n'hésitent pas à affirmer que c'est ces décisions qui ont mené au déménagement de l'équipe en 2004. comment les actions du propriétaire ont mené justement à cette prise de décision-là?
Ben, ça part avant ça. Ça part avec Claude Brochu et puis le groupe d'actionnaires québécois. La vente de feu de 95, c'est Larry Walker qui en parle dans le livre. Il dit, je comprends pas. Puis lui, il dit, les expos m'ont jamais offert de contrat. Alors que Claude Brochu a toujours prétendu qu'il avait offert un contrat à Walker. Il dit, à moins que mes deux agents me mentent, ce que je ne crois pas, les expos m'ont jamais présenté de contrat. Et à l'époque, Walker voulait rester à Montréal. Grissom voulait rester à Montréal. Les gars avaient l'impression qu'il y avait le noyau pour gagner. Ils se disaient, ben cette année, là, il n'y aura pas de grève. Là, on va y aller jusqu'au bout. On va gagner avec les mêmes gars. Et ils ont démantelé l'équipe avant même qu'on ait la chance d'y aller. Et le manque de vision est là. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quel propriétaire qui connaît le moindrement le baseball ou le sport aurait pris une chance avec ces gars-là. T'as toujours l'occasion à la date limite des transactions. Au baseball, c'est le 31 juillet. Si ça marche pas, si t'es en troisième place de ta section et que t'as aucune chance de rattraper les équipes de tête, c'est là que tu dois faire ta vente de feu. Pas pendant le camp d'entraînement où il y a rien de joué encore. Et c'est là que vraiment Brochu a manqué de vision. Ça fait très mal à l'organisation. Et par la suite, ça a été une longue agonie. Moi, je pense que ça commence là. Ça commence à la vente de feu. C'est sûr que la grève, il a été pour quelque chose. Mais la vente de feu de 95, dans ma tête à moi, c'est là où commence le début de la fin des expos. Bien avant que Loria vienne se moquer des gens d'affaires du Québec puis prendre le contrôle de l'équipe complètement avant de la vendre au baseball majeur, qui là, à cette époque-là, n'avait plus d'intérêt pour Montréal du tout.
Oui. Évidemment, lorsqu'on parle des expos, on parle de leur déménagement de 2004 qui a été particulièrement douloureux. Pour terminer l'émission, parce que malheureusement, le temps file, je sais qu'on a 3600 secondes, est une émission en contenu historique, une émission de vulgarisation, mais je ne peux pas passer à côté de cette question-là. Est-ce que vous, Frédéric Dagg, croyez au retour historique des expos?
Moi, je pense que oui. Je pense que les gens qui sont en place présentement avec Steven Bronfman, Mitch Garber, Stéphane Crétier, qui est le président de Garda World, Alain Bouchard de Couchetard, ce sont des gens qui ont les moyens de leurs ambitions. T'as Bell Media qui est dans le portrait également, qui veut s'associer au club. Hein? Bell Media a besoin de contenu pour ses chaînes TSN, RDS l'été. À TSN l'été, c'est pas rare qu'on présente des reprises du championnat mondial de hockey junior pendant que Rogers, le compétiteur principal de Bell Media, a les Blue Jays en course au championnat plus souvent qu'autrement ces dernières années. Alors, Bell est pas plus fou qu'un autre dans ce domaine-là. Il cherche du contenu. Moi, je pense que c'est des gens sérieux. Il y a une ouverture du baseball majeur. Présentement, le projet qui est vendu, c'est le projet de Ville-Sœur avec les Rays de Tampa Bay et la ville de Saint-Pétersbourg. Comme partisan de baseball, ce projet-là m'entiche moins, même si je commence à me réchauffer à l'idée. Comme journaliste sportif professionnel, moi, je dis, ben let's go, n'importe quand. Même si on a juste 25 matchs du baseball majeur à Montréal, présentement, c'est un sport majeur, c'est un événement qui va être intéressant à couvrir, qui va attirer l'attention. Moi, je pense que le projet tel que mené par Steven Bronfman et son groupe est viable et je pense qu'on va avoir des développements bientôt en ce sens-là.
Bien, on l'espère pour tous les fans de baseball, tous les partisans et aussi aux prochains qui pourraient découvrir la passion du baseball avec une nouvelle équipe. Merci beaucoup, Frédéric Daigle, de votre participation à l'émission. Je rappelle le titre de votre livre, Chips, Peanuts, Cracker Jack, 24 histoires savoureuses des expos, qui est publié aux Éditions de l'Homme. Merci beaucoup.
Hey, merci à vous pour la vitrine, c'est super apprécié.
Ça fait plaisir. Enfin, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès 19h30 sur le site de Chiz. Mon nom est Marc-Antoine Belzile et je vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire et on se laisse en beauté avec la chanson thème des expos. Les expos sont là. Bonne soirée.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
J'ai tellement parlé de coke que j'en ai perdu du pep. Si j'avais fait autrement, est-ce que j'aurais des blue heads? My heart is getting colder, hola. J'parle pas la langue de la plug, mais comme à Woodstock 94, j'ai lancé la mode de parler de drogue, vanter ses habitudes de merde. J'oserais même dire qu'en quelque sorte, j'ai fait que la démesure.